RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story. Les grandes gueules, c'est tous les jours, c'est avec vous, c'est en direct. On vous attend au 32-16, vous venez discuter, débattre, témoigner. Et on a eu des témoignages très forts tout à l'heure dans les grandes gueules. Et on vous remercie encore de votre sincérité, là, quand on a parlé de la drogue, de l'addiction et du crack en particulier. Mourad Boudjelal et Lina Dumont, Thomas Porcher. Match à 11h20, les droits de succession. Vaste débat, hein, les droits de succession. Est-ce qu'on doit les supprimer, oui ou non? C'est une proposition d'Éric Ciotti, qui est candidat aux Républicains. Donc venez en parler avec les GG, départagez les grandes gueules au 32-16. En attendant, c'est le à vous de choisir.
RMC, les grandes gueules.
À vous de choisir.
À vous de choisir sur internet rmc.fr. On vous a proposé deux sujets. L'ouverture de l'information judiciaire concernant les comptes de campagne d'Emmanuel Macron et l'éventuelle ingérence de McKinsey, le cabinet conseil, ou bien l'entrée de l'IVG dans la Constitution. Ça a été voté à l'Assemblée. C'est l'affaire McKinsey qui apparemment vous intéresse, vous titille, comme disait l'autre, et dont vous voulez que nous parlions ensemble.
Oui, car la justice se penche sur les comptes de campagne 2017 et 2022 d'Emmanuel Macron, et le rôle du cabinet McKinsey est au cœur de ces enquêtes judiciaires. Le parquet national financier, en fait, se base sur un travail qui a été effectué par le Sénat, une commission d'enquête sénatoriale sur justement les pratiques des cabinets de conseil qui sont de plus en plus influents sur la gestion de l'État. On en avait parlé ici même, il y avait un très bon livre, je vous conseille, Les Infiltrés, qui raconte comment l'État, mais aussi les collectivités, hein, les maires, les régions, etc., dépensent beaucoup d'argent, plus d'un milliard d'euros en cabinet conseil entre 2018 et 2021. Par exemple, pendant la pandémie de Covid en 2020, eh bien, McKinsey a empoché 13 millions d'euros de contrats pour des missions sur la vaccination, sur le pass sanitaire, ou encore ils devaient établir des scénarios de reprise des transports collectifs. Bref, McKinsey est partout dans les rouages de l'État et de ceux qui nous dirigent. Des membres du cabinet McKinsey ont travaillé à titre bénévole pour la campagne présidentielle de Macron, ce qui n'est pas illégal, on a le droit de faire du militantisme. La question est de savoir si en retour, l'exécutif a favorisé ce cabinet une fois Emmanuel Macron installé à l'Élysée. C'est toute la question.
C'est ça la vraie question. La vraie question, c'est pas d'avoir recours au cabinet de conseil. Enfin, bien que ce soit déjà, on peut débattre, c'est de l'argent public. Ouais. Ben il y a quand même des et puis souvent les gens qui sont dans des hauts fonctionnaires dans l'État et les gens des cabinets de conseil ont fait les mêmes études, ont quasiment les mêmes formations. Donc là on peut se voilà, mais c'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème c'est est-ce que il y a eu des contrats contre soutien. Et c'est ça le vrai souci. C'est tu soutiens et je t'offre plus de contrats parce que McKinsey a eu quand même beaucoup de contrats, hein, plus que les autres. Donc qu'est-ce qui explique ça? Et là je pense qu'on va avoir la lumière là-dessus. On a tous vu l'audition au Sénat des dirigeants du cabinet de conseil.
C'est sur la base aussi du rapport du Sénat, d'ailleurs.
Bah c'est ça qui provoque l'enquête, en fait.
Bah bien sûr.
L'enquête s'ouvre.
Et donc, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose.
C'est peut-être un scandale d'État pour toi ou pas?
Si vous avez des formes de rétrocommission, de contrat pour que vous soutenez quelqu'un.
Il va falloir le démontrer.
Si ça s'est démontré et que là, et c'est avéré, c'est problématique.
Elina?
Écoutez, moi, ce que j'ai retenu de l'affaire McKinsey, qui est un cabinet de conseil, et Thomas dit pourquoi pas faire venir des cabinets de conseil américains.
Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit c'est pas ça le problème.
Ah d'accord, excuse-moi.
Au niveau de la justice.
C'est un problème, mais c'est pas forcément un problème
au niveau de la justice.
Juridique.
Ouais, alors,
juridique.
Je pense toujours au mien. Alors, une réforme pilotée par McKinsey pour 4 millions d'euros et des dizaines de milliers de personnes ont été privées d'APL, de RSA, voir les handicapés. Oui. Donc je trouve ça très très grave. Alors que c'était censé simplifier l'information des allocations. Il y a eu des retards de plusieurs mois, mais de plusieurs années. Et d'après ce que j'ai lu, parce que en plus j'ai lu Mediapart, alors Mediapart là c'est la cata. McKinsey, d'après ce que j'ai lu, ou alors ils ont menti, Mediapart a été déjà condamné plusieurs fois. Donc, pourquoi le gouvernement travaille avec des gens qui ont déjà été condamnés? Enfin, je ne comprends pas très bien, quoi.
Il y a aussi le scandale dans le scandale, c'est qu'on avait appris que McKinsey ne payait pas d'impôts en France.
Voilà. Ouais, bien sûr.
Il y a des filiales qui sont installées dans d'autres pays.
Ayant des contrats avec l'État français.
L'État français, ouais.
Voilà, il faut remonter les comptes vers ces filiales. Monsieur Boudjelal.
Il est clair qu'on a affaire au talon d'Achille du gouvernement et du président. Hein. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des arrangements avec McKinsey, mais il faudrait être aveugle pour ne pas reconnaître que qu'il y a une certaine appétence et une certaine amitié avec ce cabinet. Alors peut-être pas d'arrangement, mais une envie de faire travailler ses amis. Ça paraît assez évident, quoi, une envie de faire travailler ses amis.
Moi, c'est pas du favoritisme, alors.
J'ai écouté l'audition au Sénat. Je veux dire, sincèrement, j'ai pas besoin d'eux pour avoir des conseils, hein. Sur le niveau qu'il y avait au Sénat, c'était assez affligeant. Je veux dire, on se demande pourquoi on paye aussi cher ces gens-là, parce que c'était pathétique. Voilà. Et donc, moi, c'est un dossier qui me dérange vraiment. Et d'autant qu'on a l'impression qu'on a signé des chèques en blanc, quoi. Je veux dire, on peut pas signer des chèques en blanc comme ça à des cabinets ne font pas preuve d'une compétence particulière. Ils sont spécialisés dans la prévision de l'imprévisible. Ils ont rien prévu, hein. Donc,
non, mais la question,
ils ont rien apporté au dossier.
La question est de savoir.
Non, mais la question, il n'y a pas de contrat, mais il est évident qu'on fait travailler les gens qui vous ont soutenu.
Oui, la question est de savoir si les gens qui Oh non, ça va plus loin.
C'est pas acté.
Non.
Vas-y, Maxime, ça a été partie prenante au sein de la campagne
électorale. Ça va plus loin, puisque.
Tu vas te taire?
Ça va plus loin puisque des salariés des gens de McKinsey ont travaillé bénévolement pour Emmanuel Macron. Ils ont le droit si ce sont des militants. Sauf si dès le départ McKinsey dit à ces gens-là travaillez pour Macron parce que derrière une fois qu'il sera au pouvoir, eh bien il y aura forcément derrière un retour vers nous. Et donc là c'est plus compliqué, c'est plus grave, c'est-à-dire que là il y a quasiment un système qui se serait mis en place.
Et dans le
dans
le monde politique, c'est pas le premier à favoriser ses amis, quoi.
Et dans le monde des affaires
Dans le monde des affaires non plus, quoi.
Je rappelle quand même que tout ça c'est de l'argent public.
Oui, voilà, excusez-moi. Bien sûr.
C'est votre argent, c'est ton argent.
Moi le problème de fond c'est a-t-on vraiment besoin de McKinsey pour diriger notre pays, quoi.
Je suis pas sûr. À la limite, c'est une autre question.
Oui, mais elle est importante.
Non, mais c'est ça que je voulais dire au début. C'est très condamnable d'avoir recours à des cabinets de conseil, mais c'est une autre question. C'est très condamnable.
Pas du PNF.
Soit dit en passant, il y a beaucoup de hauts fonctionnaires qui pensent comme les gens de McKinsey, c'est-à-dire quand
c'est les rapports les
de Bercy, de la Cour des comptes, c'est toujours la même chose. On s'en prend aux catégories C.
Ce sont tous connus à Sciences
Po. Voilà. C'est tout dans la même chose. Alors là-dessus, il y a un partage quand même d'idées. Hein. Mais après, la question, c'est pas d'avoir recours à ce cabinet de conseil qui est parfaitement finalement légal, même si c'est condamnable. Mais c'est le fait que tu favorises quelqu'un qui t'a aidé pour être président, donc après tu le favorises en lui donnant plus de contrats.
Ah mais ça veut dire que tous ceux qui sont au gouvernement, ils savent rien foutre, quoi.
Non, c'est pas ça.
Non, on peut se poser la question.
Non, c'est
quoi.
Pas ça. C'est non, mais bien sûr, mais il faut.
Au moment où tu mets en branle ta machine électorale, qui on voit arriver dans la machine électorale,
des petites
mains qui viennent de cabinet conseil. En disant voilà vous allez bosser pour Emmanuel Macron, mais ça la loi a priori au moment où ça commence la loi ne l'interdit pas.
Il y a une proximité idéologique, je veux dire un conseiller McKinsey il est macroniste, il est pas insoumis.
Mais en même temps t'as besoin d'un cabinet de conseil pour t'expliquer qu'en payant moins d'APL tu vas dépenser moins d'argent, je suis pas sûr.
Et le coût des masques, excuse-moi. Non mais d'ailleurs Macron moi il m'énerve. L'autre fois j'ai entendu au GG. C'était sa campagne qui avait coûté le plus cher, alors c'est lui qui a fait le moins de campagne.
Oui,
alors là, ça m'a tué.
C'est le paradoxe.
Non, mais ce mec-là, il dépense de l'argent.
Non, mais McKinsey, c'est.
Oui, parce que le fait qu'il ne paie pas d'impôts en France, c'est juste scandaleux. Quoi.
Non, c'est scandaleux.
Ça, c'est scandaleux. Ça, c'est un vrai
truc. Non, mais d'accord.
Il y a un très bon article dans Le Parisien.
Il n'y a rien d'illégal.
Ce matin.
Alors, il n'y a rien d'illégal. Dis-moi, mais quand l'État dépense de l'argent public, il peut y avoir un peu de morale.
Voilà.
Un minimum.
La Mourad,
c'est pas légal, la Mourad.
Tu viens du monde des affaires, Mourad. Donc tu sais, mais tu as fait des affaires. Est-ce que tu as toujours été moral entre guillemets dans ce que tu as fait?
Il y a des fois où t'as de l'argent public.
Non, mais c'est illégal. Soutiens-moi, t'auras des contrats. C'est illégal, ça.
Oui, mais ça, c'est pas démontré pour l'instant.
Non,
on va voir ce que les juges vont trouver.
L'affaire, elle porte là-dessus.
Ce qu'on peut penser, c'est qu'il n'y a pas eu d'accord, mais que McKinsey s'est dit on va miser sur le bon cheval et on aura un retour sur investissement. Voilà.
Je pense que pour les affaires de McKinsey, il était préférable que ce soit Macron que Marine Le Pen à l'Élysée. Même si je suis sûr que Marine Le Pen et peut-être Mélenchon aussi utiliserait ses conseils, puisque c'est devenu malheureusement, on peut le regretter Thomas, mais une pratique courante. Les collectivités font appel à des conseils privés.
Quand
il y a une crise qui arrive qui n'était pas prévue comme la crise sanitaire, tout d'un coup, visiblement, on a les compétences suffisantes.
Ils étaient spécialisés en gestion de crise de Covid.
Il y a beaucoup de conseillers autour de chaque ministre. Chaque ministre a des conseillers, etc. Mais on a besoin de supplémentaires pour trouver des
solutions. Comment marques l'étanchéité? Je vais te dire, on est dans un monde, en fait, aujourd'hui, où tout ce qui va venir du public est des crédibilités. Non, mais vraiment, au début, moi, je travaillais, par exemple, au Congo. Je faisais ma mission pour la Commission européenne. Quand ils présentaient leur compte au FMI, leur compte de la société pétrolière congolaise, il fallait qu'ils soient audités par KPMG. Parce que là, on savait que c'était sérieux. Si c'était les autorités congolaises, et voilà. Et ben maintenant, ça, c'est aussi dans les pays riches, en France. C'est-à-dire, si les collectivités locales présentent leurs comptes, oh là là, vous êtes un peu des tricheurs, vous êtes si, on n'a pas confiance. Faut que ce soit agrémenté par le tampon d'une société privée. Et ça, c'est problématique. Ça, c'est très problématique. Et en haut lieu, c'est ce qui se passe. On le voit bien. Alors, les mecs, ils pensent pareil, mais ils ont besoin d'un cabinet de conseil pour dire qu'il va mieux faire.
Tu dénonces cette porosité
c'est de l'argent public qu'on gaspille parce qu'il n'y a pas lieu d'être, parce qu'on a des hauts fonctionnaires qui ont fait les mêmes écoles et qui pensent la même chose, etc. Donc ça, il y a un vrai problème. Et puis après, le truc, c'est quand tu t'engages, est-ce que tu as le droit d'être récompensé à l'issue d'une élection? Est-ce que tu le fais pour être récompensé, pour gagner plus
d'argent? C'est une tradition
française. Ça, c'est un manque d'éthique. Parce que moi, quand je m'engage, j'attends rien en retour.
Bah, bien sûr, mais je suis d'accord avec toi.
Et je m'engage avec des gens, Olivier, il est au courant, très important.
Bah, bien sûr.
Oui, mais malheureusement, tout le monde n'a pas ton éthique.
Voilà, c'est ça. Mais je suis d'accord avec toi.
Mais l'éthique, ça ne se décrète pas. Tu ne peux pas écrire noir sur blanc de devoir de l'éthique. C'est pour ça que, par quoi il faut passer? On a déjà mis en place, si tu veux, des hautes autorités, des commissions. Alors,
pas les intérêts privés.
Non mais d'accord, mais est-ce que tu l'interdis? Est-ce que tu écris noir sur blanc? Est-ce que tu interdis qu'il y ait des membres de cabinet conseil qui travaillent pour un candidat en campagne électorale?
Le général de Gaulle avait besoin de conseillers privés pour gouverner la France. Est-ce que François Mitterrand avait besoin de conseillers privés pour gouverner la France? Pourquoi depuis récemment, on s'est dit qu'il fallait à tout prix faire appel à des conseillers privés pour gouverner la France?
Pardon, qui n'ont jamais rien prouvé.
On est censé quand même avoir des grandes écoles dans ce pays qui sont financées par nos impôts, notamment l'ENA, qui ne s'appelle plus l'ENA, mais qui est censé former des hauts fonctionnaires, des gens qui sont là pour gérer l'État. Visiblement, ils sont pas suffisamment compétents puisqu'on appelle McKinsey. C'est ça qui va pas dans cette histoire. Comme on faisait avant. Est-ce qu'on gérait moins bien la France qu'aujourd'hui?
Et puis, je dis, McKinsey n'a jamais rien prouvé. Je veux dire, pour la distribution des masques, tu aurais pris un gestionnaire de distribution de stocks, c'était aussi efficace que McKinsey et ça coûtait moins cher.
Tout à fait.
Il faut faire confiance à ceux conformes.
Il aurait payé ses impôts en France. Voilà. Non. Moi, ce qui me choque vraiment, c'est le fait de pas payer ses impôts en France. Quand on est l'État, on ne peut pas travailler avec des gens qui font de l'optimisation fiscale. Quoi. Voilà,
la plupart des grosses entreprises font de l'optimisation fiscale et ont reçu beaucoup d'aides publiques.
Alors, ils vont dire qu'ils ne le savaient pas forcément.
Elles payent pas d'impôts. Hein. D'ailleurs, j'ai payé des impôts pour éviter.
C'est un peu leur rôle de vérifier.
Une grande entreprise qui a dit, je vais payer des impôts pour éviter le scandale.
Quand je fais travailler une société de sécurité, par exemple, je suis censé vérifier qu'elle paie bien ses charges sociales. Si je ne pas vérifié, je deviens le garant de ses charges sociales et je dois les payer à sa place, en tant qu'entreprise privée. Donc il me semble que l'État peut quand même vérifier qu'une entreprise paie bien ses impôts.
Voilà, exactement.
À suivre donc le dossier McKinsey, on verra jusqu'où ça emmène.
Alors, tu sais quel juge s'occupe de ça?
C'est le juge Tournaire.
Le fameux juge Tournaire, c'est l'un des juges. Et juge Tournaire, c'est celui qui s'occupait de Fillon, qui est mis en examen, Fillon pendant la campagne présidentielle de 2017, d'accord. Et qui s'occupe de Sarkozy, dans l'affaire Big Malion.
D'accord.
Un tenace, apparemment.
Paraît-il.
Ça sera pas demain qu'on aura la fin du dossier. Hein.
On a posé la question, est-ce que pour vous, McKinsey, là, pendant les 10 petites minutes où on en a parlé ensemble, c'est peut-être un nouveau scandale d'État? Oui à 84%. Et les droits de succession, est-ce qu'on les supprime ou pas, ces fichus droits de succession qui reviennent régulièrement dans le débat politique? Oui ou non? Une équipe oui, une équipe non. Et c'est avec vous que ça se passe au 32-16 dans un instant. Le temps de passer par la Coupe du Monde. Morgane Maury, Pays de Galles, Iran. Où en est-on, Morgane?
Allez, Iran. 16e minute et ouverture du score pour l'Iran avec Golizadeh. Un jeu à 3 dans la surface de réparation. On arrive à esquiver le gardien. Et Golizadeh qui pousse la balle au fond des filets. 17 minutes, 1-0 pour l'Iran face au Pays de Galles.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Petite mise au point là pour ceux qui écoutaient RMC à l'instant avec l'ami Morgane Maury en ce qui concerne le match entre l'Iran et le Pays de Galles. Il nous a annoncé le but de l'Iran, mais le but de l'Iran a été annulé après la vidéo, par la vidéo. Mais c'est l'Iran, si je me fie à ce qu'on me dit, c'est l'Iran qui est quand même beaucoup plus dangereuse face au Pays de Galles de Gareth Bale.
Qui est pour l'Iran?
Et puis cet après-midi...
Moi, je m'en fous.
Pourquoi t'es pour l'Iran?
Parce que j'adore ce geste où il mime. Alors, eux, aujourd'hui, les Iraniennes qui coupent leurs cheveux. Alors,
sauf que là, les Iraniens, ouais, ils ont chanté l'hymne cette fois-ci.
Oui, je pense qu'ils ont dû avoir une ou deux petites consignes qui sont arrivées.
Oui. Il faut avoir un peu de courage quand même là-bas. Oui,
ils ont vraiment du courage.
Oui. Les Iraniens, les Mollahs, ils auraient réglé assez vite le problème des gilets jaunes, je pense.
C'est-à-dire que surtout si l'équipe d'Iran avait continué de ne pas chanter l'hymne, le retour au pays aurait peut-être été un peu plus compliqué pour les joueurs. Et surtout, au-delà des joueurs, leur famille.
Oui, bien sûr.
Parce que c'est surtout ça. Eux, ils sont là pour faire leur Coupe du Monde.
Selon les chiffres, et c'est encore un chiffre minimum, il y aurait 14 000 personnes en prison depuis le début de la révolte.
Non, mais là, ça m'intéresse. Là.
14 000.
Ah, c'est
hallucinant.
Certaines ONG disent peut-être 20 000.
Avec c'est important que les Iraniennes gagnent. C'est un enjeu important qui se passe sur la planète en Iran aujourd'hui.
Bien sûr.
C'est important qu'elles gagnent cette bataille.
Ouais.
La jeunesse iranienne doit l'emporter et doit changer de pays.
C'est un pays qui est effectivement très jeune et une jeunesse qui n'a pas beaucoup
et
de
d'avenir. Et des femmes extraordinaires.
Et qui est en révolte depuis un certain nombre d'années. Au péril de sa vie.
Et on voit à quel point un pays qui est tenu comme ça par l'islamisme, par les comme c'est dur
d'en théocratie.
Sortir. Théocratie, mais c'est comme c'est dur d'en sortir. Très dur.
Le GGSM, GG7 et match, doit-on supprimer oui ou non les droits de succession? Je n'ai qu'un mot à vous dire. C'est parti au 32-16.
RMC. GG7 et match.
On reprend en fait une proposition d'Éric Ciotti qui est candidat à l'élection chez les Républicains et qui estime que garder les droits de succession dans notre pays aujourd'hui en 2022, c'est rester en fait dans une vision passéiste de la société. Alors, les droits de succession, oui ou non, on supprime. On a une équipe qui dit non, Thomas Porcher et Elina Dumont.
Oui.
On a une équipe qui est plutôt dans le oui. C'est Monsieur Mourad Boudjelal et Olivier Truchot. Monsieur Mourad Boudjelal, c'est vous qui avez la minute.
Même pas prévu.
Mais justement, c'est l'effet de surprise parce que c'était toujours bon dans la spontanéité.
C'est ton sujet en plus.
Vas-y. Oui.
Alors, je suis contre les droits de contre le l'impôt sur les droits de succession pour une raison simple, c'est que on travaille toute sa vie avec un but. Ensuite, on meurt. Et quand on meurt, on a envie que le fruit de notre vie appartienne à nos enfants. Et ce qu'il y a d'injuste dans les droits de succession, c'est qu'on fait payer un impôt sur la mort. Puisque de son vivant, sur son immobilier, on n'a fait que payer. Lorsqu'on avait un salaire, on a payé de l'impôt pour payer des crédits. Lorsqu'on est propriétaire, on paie chaque année une taxe foncière, puis différentes taxes. Puis on se dit, bon, ben c'est ce qui va rester à mes enfants. Et ce qu'il y a d'encore plus anormal, c'est qu'on échange de l'immobilier, je parle d'immobilier bien sûr, contre de l'argent. C'est-à-dire que l'État vous dit... Voilà, tu as hérité de la pierre, alors tu vas me donner 10, 20, 30, 40% ou 60% du prix de
ceux qui sont vraiment très
de cet appartement ou de cette maison. Et si tu peux pas, eh ben on va la vendre. On va la vendre. Ce qui veut dire que moralement, non seulement j'ai travaillé toute ma vie pour payer de l'impôt, et lorsque je ne suis plus là, ben ce que je voulais, c'est-à-dire protéger ceux qui sont après moi quand je ne suis plus en état de le faire parce que je ne suis plus vivant, ben c'est l'État qui le prend. Voilà. Donc, à force de créer de l'impôt sur l'impôt, et puis surtout ces impôts détournés dans la richesse quelque part ou des toutes petites richesses, on en vient à un truc où on crée de la misère. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont hérité et qui ne sont pas en état aujourd'hui de payer l'impôt sur eux. Et tout ça va être vendu. Et qui sont les bénéficiaires? Ben, ce sont ces marchands de biens qui font les salles de vente pour récupérer des appartements à bas prix parce que les héritiers ne peuvent pas payer l'impôt sur la succession.
Et là.
Il a fait un peu plus.
Non, moi, je vais vous dire pourquoi il faut pas les supprimer. Alors, en fait, bien sûr, il faut les revoir. Moi, je pense qu'il faut aplanir les taux en bas. C'est-à-dire de ceux qui vont léguer un appartement, une maison. Tu vois, on peut les aplanir, mais en haut, il faut fortement les augmenter.
Et pourquoi?
Non, je t'explique. Parce que toi, c'est vrai que ton expérience, c'est un cas à part. T'es parti de rien, t'as réussi et t'as engendré une grosse fortune. C'est quand même très rare. Je dis, les grandes fortunes en France,
sont les héritiers.
80% c'est des héritiers. Avec une fortune qui s'est auto-valorisée. Parce que tu sais, l'argent fait des petits, hein, quand tu le places.
Ils ont payé beaucoup d'impôts déjà.
Attends,
aussi.
Elle s'est auto-valorisée.
Oui, l'impôt sur l'impôt.
Tu as 10% des Français qui ont 50% du patrimoine français. Les 1% les plus riches ont 25% du patrimoine français. Donc ça devient une société d'héritiers. Je te parle pour ceux qui ont des milliards. Donc il faudrait refonder. Enfin, pour moi, cet impôt, et faire en sorte qu'effectivement, ceux qui ont travaillé dans des conditions moyennes, normales, qui lèguent un appartement, une maison, payent quasiment rien ou pas
du tout.
Et qu'après, il y a une progressivité qui augmente très fortement. Parce que, en fait, le problème, je vais te dire, c'est quoi aussi? C'est que les gens qui héritent de ce capital, parfois sur 3, 4, 5 générations, et qui sont à la tête parfois des grandes entreprises que nous avons en France, ils ont un discours sur le mérite, ils ont un discours sur la prise de risque, qui est en fait fausse, puisqu'ils ont hérité souvent de tout ça.
Ils n'ont pris aucun risque. Alors, je t'explique, ce qui va se passer.
Non, mais attends, je finis juste ma démonstration. Il y a une concentration aujourd'hui du patrimoine entre, comme on n'a jamais vu, entre un petit nombre d'individus. Comment on fait? Alors, comment on fait? Le marché ne permet pas de redistribuer plus, je ne dis pas également, mais plus équitablement, comme ça a été le cas entre 50 et 70, ces patrimoines-là. Donc la seule façon de le faire, c'est de plus les taxer. Voilà, ça va pas rendre les gens plus pauvres. Hein. Si quelqu'un à la fin il a 13 millions au lieu de 15 millions ou 18 millions au lieu de 22 millions, il va pas souffrir.
Mais
1% à 25% du patrimoine.
Alors donc peut-être que on peut se mettre d'accord et plafonner. C'est-à-dire que c'est pas normal parce que là tu parles des grandes fortunes. On est d'accord.
Oui, mais c'est ce que j'ai dit de la progressivité.
Mais c'est pas normal que quelqu'un qui a une maison, un appartement et ça a été finalement le fruit de son travail toute sa vie, ses enfants ne peuvent pas le récupérer parce que ça coûte trop cher en droit de succession. Et donc effectivement, on vend l'appartement et l'appartement ne profite à personne sauf à des marchands de biens ou à l'État qui va récupérer son argent. Je trouve ça un peu injuste. On peut aussi supprimer les droits sur les donations parce que finalement, les enfants, ils ont surtout besoin d'argent quand ils sont dans la force de l'âge. Aujourd'hui, on vit de plus en plus vieux. C'est-à-dire que si tes parents ont 90 ans, toi, t'en as 60, tu hérites à 60 ans. A priori, ta vie est faite. Bon, t'as pas vraiment besoin à ce moment-là d'argent.
Mais les donations, c'est possible.
En revanche, quand t'as 20, 30 ans, quand tu t'installes dans la vie, etc. Donc il faut favoriser les donations, mais il faut supprimer tous les droits sur ces donations. C'est pas normal que sur une donation on paye de l'impôt. J'ai jamais bien compris ça. Je veux dire, c'est de l'argent qu'on transmet à ses enfants.
Oui.
C'est parce que comme ça l'enfant il va pouvoir se rendre indépendant dans la vie, prendre un appartement.
Ouais, et puis c'est une sécurité. Voilà. C'est une sécurité est parti. Ça nous rassure dans notre vie de se dire même quand je suis plus là.
On va chercher l'argent là où ce n'est pas forcément juste.
Oui, mais t'as quand même attention. Pardon.
Et à côté on apprend que McKinsey paye pas d'impôts.
Attention, on est d'accord, d'accord là-dessus. Mais tu sais, les 20% les plus pauvres, ils lèguent rien à leurs enfants. Ils lèguent rien du tout.
Mais c'est pas parce qu'il y en a qui lèguent rien
qu'ils peuvent tomber sur ce qui les pénalise.
Alors,
Elina Dumont.
Après vous avoir écouté avec beaucoup d'attention, parce que moi, ce problème, je ne l'aurai pas, puisque je n'hériterai de personne.
Mais, et tu ne lègueras rien non plus.
J'ai pas grand-chose. Hein. Oui. Je suis en HLM, donc.
Et tu n'as pas d'enfant.
Comment ?
Et tu n'as pas d'enfant.
J'ai pas d'enfant. Mmh. Et ravi de ne pas en avoir, d'ailleurs. Mmh. Bon, et j'ai pas de chien non plus. Non, parce que tu sais que maintenant, les chiens peuvent hériter.
Oui.
Non, mais c'est une histoire de. Oui. Bon, bref. En fait, moi, ce que je voulais dire, si on est un peu malin, c'est vrai ce qu'il a. Il a raison dans tout ce que tu as dit. La plupart des pauvres, ils lèguent rien, quoi.
Oui.
En fait, si on est malin, on est roublard. En fait, avant de mourir, il faut tout faire
pour donner. Mais ça, c'est.
Oui, mais on n'a pas toujours un rendez-vous avec la mort, quoi. On peut mourir.
Non, mais des fois, on peut le savoir.
Oui, des fois, mais bon.
Parce que moi, j'ai connu des gens. Ils ont vidé les comptes en banque avant que le gars meure.
Oui. Oui, mais enfin, ça aussi, c'est taxé, les donations.
Non, mais qu'est-ce qu'on fait contre ces patrimoines de plus en plus concentrés? Ça, ces hyper patrimoines. Là, on parle pas du mec qui a un pavillon.
L'impôt
là,
n'est pas une réponse à tout, Thomas.
Non, mais, on est d'accord. Le mec qui a un petit pavillon.
Nous sommes
d'accord qu'il faut aplanir en bas. On est d'accord. Très bien. Mais qu'est-ce qu'on fait contre l'hyper concentration de ces grands patrimoines? C'est ça le vrai truc. C'est un moment. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit qu'on laisse filer les choses? Alors là, 1% à 25% des patrimoines, c'est-à-dire de l'immobilier, tout ce qu'il y a dans les comptes en banque, un jour sera 1% à 40%, on va dire, c'est normal. Je veux dire, cette richesse, elle se concentre parce qu'il y a des mécanismes qui ont été mis en place pour que cette richesse s'auto-valorise. À un moment, il faut se poser la question de comment on fait pour la redistribuer. Je vois pas d'autres outils que celui de la fiscalité. Voilà, c'est tout.
Oui, mais il y a deux choses. Il y a l'impôt sur les grandes fortunes ou les gros patrimoines ou les grosses entreprises.
Qui existe déjà.
Et puis qui existe déjà. Et puis après, il y a tout ce qui concerne les particuliers. Tu es d'accord qu'on peut dissocier les deux ou pas?
Oui, bien sûr. Mais quand 80% des milliardaires qu'on a en France.
Ce sont des héritiers.
Mais
ils n'ont pas de problème. Arnaud, pour toi, est un héritier.
Bah, tu vois le chiffre, bah oui. Enfin,
bah non. Non, mais, non, il est attends, parti, il avait non, effectivement son permis.
Est-ce que je pensais que tu me parlais du fils, excuse-moi.
Je parle de Bernard Arnault. Est-ce que Bernard Arnault, puisque. Non, mais. Bernard Arnault,
il s'appelle. Je connais pas toute l'histoire de Bernard. Je connais pas toute l'histoire de Bernard Arnault. Mais je peux vous dire une chose.
Alors là, pour le coup, je suis d'accord avec Olivier. Moi, je connais l'histoire de Monsieur Picard et l'histoire de Louis Vuitton. C'est extraordinaire leur vie. Et c'est vrai qu'il. Non, mais t'as raison, Olivier.
Oui, mais
il faut les sanctionner, ces gens-là.
Voilà. Non, je peux dire une chose.
Peut-être le remercier d'avoir créé de la richesse.
Oui, mais tu dois faire rayonner l'impôt partout.
Toi, t'es pour la fiscalité punitive.
Non, attention, attention. Laissez-moi. Non, mais sur ces grandes fortunes. Non, mais sur ces grandes fortunes.
Attention. Il y a une mesure.
Sur ces grandes fortunes, les niveaux qu'elles ont atteints, ce sont des niveaux qu'elles ont atteints qui ne sont pas.
Déjà beaucoup.
Attends. Il y a un travail, il y a un destin.
Mais il faut leur remettre une médaille, peut-être, aux gens qui payent autant d'impôts.
Stop.
Anastasia sort de sa
corde. Il y a effectivement des parcours impressionnants, il y a des choix stratégiques impressionnants et personne ne les critique. Mais l'ampleur qu'ont pris leur fortune, c'est aussi parce que vous avez un système avec des baisses de fiscalité en plus haut, avec effectivement des possibilités d'optimisation fiscale dans certains cas. Ah non, mais avec une logique actionnariale qui a fait qu'aujourd'hui, les grands chefs d'entreprise sont payés mais 35, voire 40 fois plus que dans les années 50-70, qui leur a permis d'accumuler des fortunes colossales que nous n'avions jamais vues auparavant. Mmh. Je rappelle que Ford, qui était un grand capitaliste, il voulait que l'écart entre le salaire moyen chez lui et lui, ce soit 40.
D'accord.
Maintenant, l'écart, il est à 304 ans. Et tout le monde trouve ça normal. Et c'est ça qui est dénoncé la question.
T'es dans un raisonnement, c'est un peu binaire, t'es en train de nous expliquer qu'il y a des pauvres parce qu'il y a des riches. C'est pas aussi simple que ça.
Quoi. Je pense que la question.
T'es un peu. Tu me fais penser à ces gens qui comparent sans arrêt, par exemple avec les migrants, qui vont dire pourquoi les migrants ils ont ça et pourquoi les Français n'ont pas ça. T'es à peu près dans le même genre de raisonnement déguisé.
Non, mais quand tu vois les chefs d'entreprise qui ont leur salaire commun de 56% et qu'on refuse d'augmenter le SMIC de plus de 6%, pas le SMIC, c'est le salaire médian de plus de 6%, là tu vas pas me dire qu'il n'y a pas un problème de répartition. La richesse est créée collectivement. Par les patrons, par les travailleurs, les patrons ils s'augmentent fortement, les salariés ils n'ont pas le droit d'augmenter.
Non, mais d'abord. Parce que le chiffre d'affaires n'est pas un acquis, Thomas. Le jour où tu augmentes les salaires de 6%, il faut que tu augmentes ton chiffre. Ouais, ouais. Est-ce que tu as la garantie que ton chiffre d'affaires va suivre chaque année? Ça, c'est la première.
Ouais, mais la boucle prix salaire n'existe pas pour les grands patrons.
Ben oui, parce que tu pourras pas baisser. Tu peux retirer des primes, mais les salaires non. Et si tu augmentes les salaires de 6%, et pour que ça continue, ben c'est toute une chaîne qui va augmenter quelque part, parce que ta marge se réduit.
Écoute, moi, je pense que les patrons ont toujours eu.
Tu fais pas la différence entre l'entrepreneur et le super patron qui est juste salarié privilégié.
Et au début, je l'ai fait.
Je l'ai fait en te citant.
Ça n'a rien à voir, je fais la différence.
Juste. Carlos Tavares, qu'un très grand patron
du CAC 40 ou du SP500 est aujourd'hui une rémunération qui soit, je sais pas moi, 20, 30 fois supérieure à celle qu'il avait dans les années 50-70.
Grâce à ses dividendes aussi.
Mais voilà, je suis pas sûr qu'il soit 30 à 50 fois plus efficace.
Grâce à ses dividendes. Alors là, je serais pas tout à fait d'accord avec, je serais pas tout à fait contre ce que dit Thomas. Je ferais la différence entre effectivement celui qui a créé sa boîte, qui a monté.
C'est pas pareil. Lui qui parle de son argent, on est d'accord.
C'est sans doute un très grand patron de l'automobile, mais c'est un super salarié.
Oui, mais un patron, c'est un vrai patron, c'est quelqu'un qui parle de son argent.
Ah, mais nous sommes d'accord.
Pour le moment,
et c'est pour ça que j'ai fait la différence dès le début.
Thomas, tu focalises sur la mauvaise partie du débat.
Oui.
Je pense que.
Comme souvent d'ailleurs.
Et ce qui va permettre d'avoir notre deuxième discussion, pour l'ensemble des Français aujourd'hui, le souci, c'est pas ce patrimoine, c'est simplement quand dans la famille, tu as un bien. Ne serait-ce qu'un appartement ou même toute ta vie, tu sais, la résidence secondaire. Et là, tu peux pas payer parce que t'as pas forcément la même situation. Et c'est, on te dit, monsieur, vous devez payer, je te dis n'importe quoi, 20, 30, 40 000 euros de droits de succession sur un appartement qui était situé en centre-ville.
On les a pas forcément.
Et là, tu les as pas. Et tu dis, mais je comprends pas parce que mon père ou ma mère, ils ont payé.
Ouais, mais qu'est-ce que j'ai dit au début?
T'as 6 mois pour vendre.
Il faut baisser le taux de fiscalité en bas et l'augmenter beaucoup.
Non, mais après, ça devient un impôt sur la mort qui est insupportable.
Ce sera la deuxième partie de notre discussion sur les droits de succession. Faut-il
payer le funérail, il était à
faut-il supprimer les droits de succession, oui ou non? Qui a pris l'avantage entre les deux équipes, l'équipe qui dit non et l'équipe qui dit oui?
Vous le saurez
dans
3
minutes.
Le temps de passer par le foot, Morgane Maury, Pays de Galles,
Iran a marqué. Je le sens, Iran a marqué.
Non, moi, pour l'instant, personne ne passe à la caisse. 37e minute, Pays de Galles, Iran 0-0. L'Iran a marqué un but, mais refusé pour un hors-jeu 0-0 à la 37e minute dans cette rencontre de la poule B entre le Pays de Galles et l'Iran.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules. Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, on parle des droits de succession. Doit-on, oui ou non, les supprimer? C'est la question que l'on se pose. C'est une proposition en ce moment d'Éric Ciotti, qui est candidat à la présidence des Républicains. Mais c'est vrai que c'est une proposition qui revient régulièrement dans le débat politique et hors campagne électorale aussi. Alors, on a une équipe qui dit oui, elle est menée par Mourad Boudjelal, une équipe qui dit non, emmenée par Thomas Porcher. Et c'est un oui à 83%. Ah oui, il faut supprimer les droits de succession. Tu es à
très impopulaire.
Tu es à contre-courent par rapport à l'opinion.
Oui, oui, je sais, c'est souvent le
mais
cas.
Mais moi, je propose qu'on ne les supprime, sauf pour Thomas.
Non, mais pourtant.
Parce que je pense que tu te focalises uniquement sur, effectivement, les héritiers richissimes, mais qui représentent une part infime de la population.
Mais tu captes une grosse partie du patrimoine.
Mais ce qui est ton problème à toi, c'est que tu vois des masses. Alors, effectivement, il y a une masse d'argent d'un côté, de l'autre côté, il y a une masse de gens. Voilà. Ceux-là sont plus importants que la masse d'argent.
Oui, oui, mais la masse d'argent va à un petit nombre de personnes. Bah, et moi, ce qui m'étonne, enfin, je me permets, excuse-moi, après, je laisse, pardon. C'est qu'il y a des gens qui héritent d'un petit patrimoine, effectivement, qui paye trop d'impôts, et j'ai dit qu'il fallait aplanir ça et qu'ils en payent moins, et qui s'identifient à ceux qui héritent des dizaines de millions d'euros.
Même si le patrimoine, on veut supprimer pour ces gens-là, parce que toi, tu veux quand même prendre un peu d'argent.
Mais
toi, tu as dit, on aplanit, mais t'as pas dit on supprime.
Je pense que le débat est clos, ils ont perdu, on peut pas faire.
Attends, Elina, parce qu'au 32-16, on a Thomas qui vient d'arriver, qui nous appelle de Charente-Maritime. Bonjour, mon cher Thomas.
Oui, bonjour.
Alors, Thomas, allez-y, on supprime les droits de succession, oui ou non?
Oui, évidemment. J'ai moi-même été dans cette situation. J'ai perdu mon père assez jeune, il y a une dizaine d'années, à 22 ans. Mon père il vient de très loin. Il est fils d'institutrice dans les Vosges. C'est une belle réussite. Il est devenu dentiste. Il est mort malheureusement à 54 ans. Voilà, donc moi j'ai un frère et une sœur. Donc à sa mort, on a forcément hérité de sommes d'argent et de patrimoine. Ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai entendu mon père. Donc mon père a travaillé forcément toute sa vie. Il a été taxé toute sa vie. Il a payé les impôts. J'en paye moi-même personnellement. C'est tout à fait normal. Mais avec le peu de... J'ai entendu mon père toute sa vie nous dire, c'est pas compliqué, je travaille 10 mois pour l'État, je travaille 2 mois pour moi. En gros. Donc, comment peut-on retaxer une somme d'argent qui a elle-même été taxée pléthore pendant toute sa vie, le peu qu'il a réussi à mettre de côté pour s'acheter une maison de vacances, pour nous emmener un peu en vacances et mettre un peu d'argent sur un compte en banque, il a quand même déjà été surtaxé. Donc j'ai très bien, j'ai beaucoup aimé votre expression, c'est une taxe sur la mort, un impôt sur la mort. Mon père a payé des impôts toute sa vie et le peu qu'il a réussi à mettre de côté, ses enfants vont devoir repayer un impôt et une taxe sur le peu d'argent qu'on lui a laissé à la fin de sa vie. Donc oui, je trouve ça vraiment scandaleux. Heureusement que ma mère est intelligente et qu'elle a réussi à nous faire quelques donations avant, même si les donations sont
limitées. Ah, bravo, monsieur.
C'est plafonné à combien?
Et ça, il faudrait déplafonner.
Je crois que l'argent, c'est limité à 10 000 euros. Je sais plus exactement les sommes, mais on s'est confronté à moi, mon frère et ma sœur, à devoir payer des sommes d'argent qui sont quand même faramineuses et colossales, devoir vendre des biens immobiliers pour pouvoir en garder certains, alors que mon père, c'est pardonnez-moi l'expression, casser le cul toute sa vie pour payer les impôts.
Au détriment de présence avec ses enfants en plus.
Et en plus, il travaillait 6 jours sur 7, il partait à 8h du matin, il rentrait à 20h le soir.
Bien sûr.
Donc il a travaillé toute sa vie, le peu qu'il a gagné, qu'on lui a laissé pour s'acheter une maison de vacances ou pour faire plaisir à ses enfants, le jour où il est parti, en plus il est parti jeune, il est parti à 54 ans.
C'est jeune. Donc en fait, ce que vous nous dites, et c'est très intéressant ce témoignage Thomas, merci à vous, c'est que finalement ça favorise un peu l'inactivité, un peu le côté, finalement, ça sert à rien que je travaille trop, je gagne un peu, au moins, ce un peu, il sera pas imposé, on ne favorise pas, en fait, c'est un système qui n'encourage pas la réussite.
Il y a un cas qui est encore plus terrible. Imaginez l'entrepreneur, je donne un exemple, l'entrepreneur qui décide de se construire un patrimoine immobilier. Qu'est-ce qu'il va se faire? pour
on l'appellera Mourad.
Il va mettre en place des crédits pendant un certain temps. Pour payer ces crédits, il va se distribuer soit des dividendes, soit des salaires. Sur ces salaires, il va payer des charges sociales.
Eh oui.
Et il va aussi payer de l'impôt. Alors que c'est pas de l'argent qui va dans son pouvoir d'achat, c'est de l'argent qui rembourse des crédits immobiliers.
Exactement.
Et à l'arrivée, en ayant payé à plusieurs tours les impôts, plus les taxes foncières, il va encore payer un impôt sur la mort.
Eh ben voilà, exactement.
Attendez, je voudrais poser une question.
Vas-y.
Excusez-moi, j'ai étudié le sujet, mais j'ai dû rien comprendre. Imaginons que c'est une personne au RSA qui hérite d'une villa.
Oui, eh ben, il faut qu'elle la vende.
Il paye.
Bien sûr.
Tout le monde sait.
En fonction de leur revenu.
Bien sûr.
Imaginez-moi, j'habite à l'île de Ré. Une maison de vacances à l'île de Ré, ça n'existe pas à moins d'1 million d'euros.
Ouais.
Je suis auto-entrepreneur, j'ai deux entreprises, j'ai 4 salariés, je suis un petit patron, je gagne correctement ma vie. Nous n'avons jamais eu les moyens de pouvoir racheter la maison à l'île de Ré, parce que c'est une zone immobilière qui en plus coûte des milliers et des milliers et des milliers d'euros, parce que ça fait...
Il y a la taxe foncière déjà à payer là-bas,
exactement.
L'entretien,
donc, il a réussi à se payer une maison qui vaut quand même très cher dans un endroit très très cher.
Et à l'époque, elle valait combien la maison?
Beaucoup moins. À l'époque, ils l'ont
vous avez dû la vendre
90,
en fait.
Elle a pris de l'argent en plus.
Voilà, et donc vous avez dû la vendre en fait pour payer les droits de succession, j'ai
exactement.
Bien compris, c'est ça.
Tout à fait.
Voilà.
Oui,
Mais en plus,
on doit la vendre vite, on a 6 mois, donc on la vend pas forcément bien.
Elle a pris beaucoup de valeur.
Non, mais ce que dit Lina.
Oui, mais Thomas, il aurait peut-être aimé la garder, cette maison.
Oui, bien sûr.
J'aurais adoré la garder, cette maison.
Il me semble
qu'elle lui appartient plus à lui qu'à l'État, quoi.
Ah bah oui, sachant que moi j'ai 32 ans, j'ai grandi dans cette maison en vacances.
Bien sûr, j'ai grandi
dans cette maison et à travers la porte de mon père, on a dû la vendre parce qu'on n'avait pas les moyens de la garder.
Merci Thomas de ce témoignage.
C'est difficile de changer de qu'il faut 3 générations pour changer de statut social ou 4 générations même dans ce pays. Et ça aide pas puisque effectivement, au moment où tu dois vendre, où tu peux pas hériter pour ce genre d'héritage, ça t'aide pas à changer. Au contraire, ça t'appauvrit.
Alors
je suis surpris Thomas que les excellent économiste que tu es, ne le vois pas.
Parce que quand on parle de ça, c'est surtout que les enfants d'ouvriers sont ouvriers, les enfants de 4 sont 4. C'est ça le vrai problème.
Mais ça peut aider à changer de statut, ça peut aider.
Pour beaucoup de gens, pour une grosse partie quand même, je te dis, les 20%, ils laissent rien du tout, les plus pauvres. Après, on peut un peu monter, mais il y a une grosse partie des Français, le droit de succession, c'est pas leur premier problème.
Oui.
Leur premier problème, c'est d'avoir déjà un logement.
C'est pas leur problème qu'il faut forcément punir les autres.
C'est pas leur problème qu'il faut que ça devienne un
pour les autres.
Le droit de succession supprime la richesse alors que les fortunes n'ont jamais été aussi grosses et concentrées entre les mains d'un petit nombre.
On dit simplement que les droits de succession, dans le cas par exemple de Thomas, c'est injuste.
Bien sûr.
C'est injustifiable.
Je partage.
Alors attends, on a encore un témoignage.
Juste un truc, Alain. Après, on a un témoignage. Tu m'as fait rebondir sur un truc. En tout cas, pendant qu'on y est, qu'on fasse sauter. Vous savez, quand vous devez payer tous les 5 ans votre place au cimetière.
Oui.
Ah. Ben ça, il faut le faire sauter. Parce que, tu dis qu'il y a des gens, au bout de 5 ans, ils ne peuvent plus payer. Hein,
oui, bien sûr.
Et on prend les corps, on les brûle. Hein.
Oui.
C'est horrible.
C'est pas illogique aussi.
Aujourd'hui, au niveau des donations, le nouveau système en France, chaque parent peut donner jusqu'à 100 000 euros par enfant sans qu'il y ait de droits de donation à payer.
Oui, ça a changé. Combien?
Alors attends, un couple peut donc transmettre à chacun de ses enfants 200 000 euros en exonération de droits, abattement de 100 000 euros qui peut s'appliquer en une seule ou plusieurs fois tous les 15 ans.
Tu te rends compte quand même?
Oui, tous les 15 ans.
Donc ça veut dire que tu donnes 15 ans 100 000, après tu redonnes 100 000, là t'as pas droit. Voilà, donc on en revient à ça.
Oui, mais là, je trouve que c'est bien de pas imposer donation, mais ça touche quand même une petite partie de la population.
Voilà. Oui,
en revanche, la grande partie qui va hériter, parce que les gens, donc, en fait c'est un bien immobilier,
t'as
100 000 affiliés comme ça à tes enfants, mais t'as un bien immobilier que tu donneras à ta mort.
Donc,
philosophiquement, tu veux expliquer quoi aux gens? Travailler, et si vous travaillez, vous allez gagner de l'argent et vous pourrez protéger les vôtres, ou travailler et vous allez payer beaucoup d'impôts.
Quelle est la formule qui va motiver les gens à faire avancer le pays philosophiquement ce qu'il faut. Effectivement, quand il faut alléger les droits de succession sur les gens qui ont des biens immobiliers dus à leur travail, ce qui est la majorité des gens.
Mais
il y a une grosse partie du patrimoine, 50% entre les mains de 10%,
mais là,
25% entre les mains d'1%, où là ils s'auto-valorisent et ils augmentent et il n'y a
donc
jamais eu autant de richesse.
En fait, tu voudras le faire payer à mes petits-enfants.
Parce qu'eux,
ils seront héritiers de mes enfants.
Et c'est cela que moi je pense qu'il faut taxer plus, parce qu'en les taxant plus, vous ne rendrez pas les gens plus pauvres. C'est ça. Vous ne les rendrez pas plus pauvres.
C'est pas compliqué. Ceux qui sont pour partager, c'est souvent ceux qui n'ont rien. Voilà.
Normal.
Alors.
Mais attention, l'attaque, les impôts tombent pas dans un trou noir. Ils financent les services publics. Ouais. Et le service public, c'est le patrimoine du pauvre.
Ou McKinsey. Voilà. Ou McKinsey.
C'est pour financer McKinsey.
Voilà. Alors. Et les amis, c'est la fin. C'est la fin de la discussion. Doit-on, oui ou non, supprimer les droits de succession? On avait un très très net avantage pour la suppression des droits de succession. Est-ce que la tendance est peut-être pas inversée, mais est-ce que l'équipe non a réussi à remonter? Attention, c'est parti, résultat final.
On a gagné un point.
82% de gens en faveur.
Si le débat avait duré 12 heures, on aurait pu égaliser.
Voilà. Et pas fiscalisé en plus.
82% aussi pour aider
en faveur
Thomas.
De la suppression des droits de succession. Pays de Galles, Iran, Morgan Mori, où en est-on?
Allez, une bonne nouvelle.
C'est la pause, 0-0 entre le Pays de Galles et l'Iran. L'Iran a poussé, un but annulé pour un hors-jeu, mais les Perses n'ont pas réussi à tromper la vigilance de Hennessy, le gardien gallois. 0-0 après les 45 premières minutes de cette rencontre de la poule B.
Le match Pays de Galles-Iran est en ce moment en direct et en intégralité sur l'appli RMC avec la radio digitale RMC 100% Coupe du Monde.
Téléchargez l'appli RMC.
Stelle, ma chère Estelle Denis, le débat continue sur RMC et RMC Story. Bonjour.
Ça va Alain, ça va les GG?
Oui.
Tu sais qu'on est à un mois tout pile de Noël.
Ah déjà?
Que nous sommes le 25 novembre et Noël c'est le 25 décembre bien sûr.
Heureusement que tu nous le...
Mais j'ai beaucoup réfléchi. Eh bien, sachez qu'un Français sur quatre est prêt à manger de la pizza au réveillon.
Ah, l'ananas. T'as vu qu'on a raison Olivier, tous les deux.
C'est la 4 fromages qui arrive en tête. Est-ce que vous seriez prêt à manger de la pizza au réveillon? Est-ce que c'est un sacrilège ou au contraire un symbole de modernité que de vouloir manger autre chose que de la dinde?
C'est un symbole de modernité.
Ah bon? Tu mangerais de la pizza au réveillon?
Tu sais, moi, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que quand j'étais petite, eh ben, t'avais pas beaucoup de cadeaux de Noël.
Oui.
Tu te contentais de ce que t'avais, mais c'est peut-être ce qui fait ce que je suis devenue aujourd'hui.
Un menu best-of.
Oui, mais une pizza quand même. Tu peux.
Non, mais on dit une pizza, mais ça peut être un poulet.
Ah, ben non, ça n'a rien à voir. Non, là, c'est vraiment une pizza.
Ah, ouais.
C'est une pizza. Bon, ça, ce sera à 14h.
Est-ce qu'on peut mettre des huîtres dessus?
Dans la pizza?
Ah, je sais pas.
On met bien de l'ananas, donc effectivement.
Ça se passe un peu Noël, tu vois.
Faire bien comme tu veux. 13h, les mineurs privés de trottinettes électriques en libre service à Paris. Mais est-ce qu'il faut aller encore plus loin?
Oui.
Et interdire tout simplement ces engins? Ça, ce sera à 13h. On attend vos réactions au 32-16. Et puis, grosse tension à l'Assemblée nationale autour de la réintégration des soignants non vaccinés. Faut-il les réintégrer, ces soignants? Ça, ce sera dans un instant, dans Estelle Midi.
Avec?
Je suis d'accord avec toi.
Avec Perico Légas, Pierre-Édouard Magnan et Laurent Dandrieux.
Bon débat avec Estelle, bon week-end et rendez-vous lundi 9h avec les GG, avec les Grandes Gueules, avec Barbara Lefebvre, Étienne Nibig et Charles Consigne.
RMC, midi 15h,
Estelle Midi.